Chapitre 12. Richard aurait voulu dire une multitude de choses à Shota. Pour commencer, il lui aurait bien révélé que l'ordre impérial n'était pas la seule menace pesant sur l'humanité. Les boîtes d'Orden étant remises dans le jeu, si on ne faisait rien, les sœurs de l'obscurité libéreraient un pouvoir qui dévasterait le monde des vivants et livrerait ses habitants aux gardiens du royaume des morts. Mais ce n'était pas tout. Si personne ne trouvait un moyen de neutraliser le sort d'oubli, la chaîne de flammes, la mémoire de tous les êtres humains finirait par être effacée avec toutes les conséquences qu'on pouvait imaginer. Au cas où la voyante n'aurait pas mesuré la gravité de la situation, il aurait pu ajouter que la magie était condamnée, sauf si ses défenseurs parvenaient à éliminer la corruption laissée par les carillons, un pari qui n'était pas gagné d'avance. D'autant plus que la contamination du pouvoir avait peut-être déjà enclenché une autre réaction en chaîne potentiellement mortelle pour l'humanité. Richard aurait également aimé dire à Shota qu'elle ne savait absolument rien de la femme qu'il aimait et qui était tout pour lui. Callan incarnait son avenir. Il crevait de peur pour elle, son absence le rendait fou et la seule idée de ce qui avait pu lui arriver l'empêchait de dormir depuis des semaines. Oui. Le sourcier mourait d'envie d'affirmer que l'ordre impérial n'était qu'un problème parmi d'autres. Mais en voyant Djebra si terrorisé, il songea que ce n'était ni le lieu ni le moment d'évoquer tout le reste. Tendant une main, il fit signe à Djebra d'approcher de lui. Ses beaux yeux bleus pleins de larmes, la pitié finit par obéir. Si le sourcier ignorait par quoi elle était passée, du moins dans le détail, son visage cendreux et les nouvelles rides qui paraissaient son front témoignaient que les choses n'avaient pas dû être faciles. La pitié prit le poignet de Richard qui lui tapota tendrement le bras de sa main libre. « Tu as fait un grand voyage pour nous parler et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Dis-nous ce que tu sais, je t'en prie. »«
Je ferai de mon mieux, Seigneur Hall. »
Sous le regard scrutateur de Shota, Richard guida Djebra jusqu'à la fontaine et l'invita à s'asseoir sur le muret de marbre blanc. « Tu es retourné en Galéa avec la reine Cyrilla, » récapitula-t-il, « parce qu'elle était très malade et avait besoin de tes soins. À cause d'un séjour forcé dans une oubliette, en compagnie de brutes épaisses, la reine de Galéa n'avait plus tous ses esprits. Tu devais l'aider à se rétablir, si c'était possible, et lui servir de conseillère si elle reprenait une vie normale.
« C'est ça, Seigneur. »
« Alors une fois chez elle, Cyrilla est-elle allée mieux ?» demanda Richard. Il connaissait déjà la réponse grâce à Callan, mais Djebra avait besoin qu'on l'aide à s'exprimer.
« Oui, elle est restée hébétée si longtemps que je commençais à désespérer. Mais être chez elle lui a fait beaucoup de bien. » Au début, elle a simplement commencé à reconnaître des visages familiers, puis des souvenirs lui sont revenus, et elle a recouvré un semblant de lucidité. On eût dit qu'elle sortait d'hibernation ou quelque chose dans ce genre. Très vite, elle a recouvré son énergie, se montrant curieuse de tout, comme une fillette. « Cyrilla était la reine de Galéa, » crut bon de préciser Shota. « Elle est montée sur le trône à la place de... »«
Du prince Harold, » la coupa Richard. Son frère qui a préféré la vie militaire à la couronne. La voyante plissa le front.
On dirait que tu en sais long sur la lignée royale de Galéa.
Le père du prince et de la princesse se nommait Wyborn. Ce roi était aussi le géniteur de Callan. Ma femme étant la demi-sœur de Cyrilla, n'est-il pas normal que j'en sache long sur la dynastie?
Shota fut peut-être surprise par cette révélation, si elle l'a crue, puisque pour elle, Callan n'existait pas, mais elle parvint à ne pas le montrer et s'éloigna majestueusement pour laisser Djebra raconter son histoire.
Cyrilla reprit sa place sur le trône, et tout recommença comme si elle n'était jamais partie. Dans la capitale, tout le monde était ravi de son retour. À l'époque, Galéa luttait pour se remettre du massacre d'Ebinicia, une horreur perpétrée par les forces avancées de Jagang. Lors de la mise à sac de la cité, les pertes en vie humaine avaient été terrifiantes. Les envahisseurs ayant levé le camp depuis longtemps, Ebinicia renaissait de ses cendres lentement mais sûrement. Les bâtiments brûlés étaient en cours de reconstruction, les affaires reprenaient et un certain nombre de boutiques avaient rouvert. De nouveau, des gens venaient des quatre coins de Galéa pour mener une vie plus heureuse dans la capitale. Les familles se reformaient et s'agrandissaient. Au prix d'un travail épuisant, la prospérité remonterait le bout de son nez. Le retour de la reine accéléra le processus car les gens eurent le sentiment que la vie revenait à la normale. Les citadins affirmaient qu'Ebinitia ne se laisserait pas prendre deux fois. Fort d'une sinistre expérience, les stratèges imaginèrent de nouvelles défenses et on renforça considérablement la garnison. Comme ses sujets, Cyrilla décida d'oublier les mauvais souvenirs et de se consacrer au renouveau de Galéa. Donnant audience sur audience, elle reprit la haute main sur les affaires d'État les plus importantes. Prise d'une frénésie d'activité, elle se chargea en personne d'arbitrer des conflits commerciaux et se fit un point d'honneur d'assister aux bals les plus cotés et d'y danser avec les plus hauts dignitaires. Le prince Harold, qui dirigeait l'armée du royaume, tenait sa sœur informée du développement de la guerre contre l'Ancien Monde. Malgré son enthousiasme de façade, Cyrilla savait très bien que les hordes de Jagang menaçaient le sud des contrées du milieu. Quand elle venait de recevoir un rapport, je m'en apercevais au premier coup d'œil, parce qu'elle se tordait les mains, des larmes aux yeux, et finissait immanquablement par aller s'enfermer dans une pièce sans fenêtre ni éclairage. On eût dit qu'elle recherchait l'obscurité qui régnait peu de temps auparavant dans son esprit, cette hébétude qui la protégeait de tout. Mais bien entendu, elle ne pouvait plus s'y réfugier. Djebra désigna le vieux sorcier qui l'écoutait en silence. Zed m'avait chargé de veiller sur la reine et de la conseiller de mon mieux. Même si elle semblait être redevenue la Cyrilla d'antan, ne cherchant plus le salut dans la folie, je voyais bien que son équilibre était des plus précaires. Mes visions la concernant n'étaient jamais nettes et précises. Sans doute parce qu'une rechute la menaçait en permanence. En fait, c'était très représentatif de la situation du pays. Tout semblait aller bien, mais avec l'ordre se pressant aux frontières des contrées, ça ne pouvait être qu'une illusion. Du coup, nous vivions dans une tension permanente. Quand des éclaireurs nous apprirent que l'ordre remontait la vallée de Kalizidrine en direction du centre des contrées afin de diviser le Nouveau Monde, j'ai conseillé à la reine de soutenir l'armée d'Aran. Oui, je pensais que les forces de Galéa devaient se joindre à l'Empire d'Aran et combattre sous les ordres du seigneur Ral. Le prince Harold jugeait aussi que c'était notre seule chance d'échapper à un désastre. La reine ne voulut rien entendre. Selon elle, son devoir était de protéger Galéa, pas les autres royaumes. J'ai essayé de lui faire comprendre que résister seule était impossible, mais elle ne semblait pas comprendre mes propos. En revanche, elle avait entendu des histoires terrifiantes sur les atrocités commises par l'ordre un peu partout dans le Nouveau Monde. Les bouchers de Jagang la terrorisaient, mais elle ne saisissait pas qu'il fallait les arrêter avant qu'ils aient atteint Galéa. Nous reçûmes des messages désespérés, implorant qu'on envoie des renforts. Les ignorant, Cyrilla ordonna au contraire à Harold de lever une grande armée dont la seule mission serait de défendre le royaume. Pour elle, le devoir de son frère et de ses hommes était de garantir l'intégrité de Galéa. Un seul mot d'ordre importait, empêcher les envahisseurs de mettre un pied sur le sol de nos ancêtres. Après avoir tenté de faire changer sa sœur d'avis, Harold oublia ses propres arguments et se convertit aux thèses officielles. Une forme de loyauté des plus destructrices, hélas. Cyrilla voulait que Galéa devienne un bastion imprenable. Le sort des contrées ne l'intéressait pas. En réalité, elle se fichait du destin du Nouveau Monde, tant que...
« Oui, oui, nous savons tout ça. »
La coupa Chota, agacée.
« Personne n'ignore que Cyrilla était cinglée. Je ne t'ai pas amené ici pour que tu nous décrives les joies de l'existence sous le règne d'une dingue. »«
Désolé, » souffla Djebra.
Très mal à l'aise, elle se racla la gorge avant de continuer.
Très vite, Cyrilla se lassa de m'entendre la contredire. Elle m'informa donc que sa décision était irrévocable. Et cette décision scella le sort de Galéa. Sans doute parce que le destin d'un royaume était en jeu, j'eus une terrible vision. En réalité, cela ne commença pas par des images, mais par un son à glacer les sangs qui envahit mon esprit. Alors que j'en tremblais de terreur, des scènes m'apparurent, et toutes annonçaient un désastre. Je vis les défenseurs se faire massacrer, les cités brûler comme des feux de joie, la reine Cyrilla être livrée à des brutes et transformée en catin de luxe.
Djebra marqua une pause, le temps d'essuyer les larmes qui ruisselaient sur sa joue. Puis elle fit à Richard un petit sourire qui ne parvint pas à se communiquer à ses yeux, désormais écarquillés de terreur rétrospective.
Inutile que je vous cite toutes les atrocités que j'ai découvertes dans cette vision. Mais bien entendu, j'ai tout raconté à la reine.
Sans résultat, j'imagine.
Exactement. Enfin, sans résultat positif. Folle de rage, Cyrilla a appelé le garde et lui a ordonné d'arrêter la traîtresse qui osait se tenir devant elle. Seigneur Ral, elle m'a fait mettre au cachot. Et elle a ordonné à mes geôliers de me couper la langue si je continuais à proférer des blasphèmes.
Djebra eut un étrange rire de gorge, presque un ricanement, mais qui ne s'adressait pas à l'assistance.
Je refusais qu'on me coupe la langue. Et tu avais raison, mon enfant.
Lança Zed. Il approcha de Djebra et lui posa une main sur l'épaule.
Toute provocation aurait été inutile, t'attirant simplement un châtiment injuste et répugnant. Personne ne peut te reprocher de ne pas avoir insisté, parce que ça n'aurait servi à rien. Tu as tenté d'ouvrir les yeux à Cyrilla, mais elle a préféré rester aveugle. Parce que la folie ne l'a jamais quittée en réalité. Des gens parfaitement sains d'esprit agissent parfois de manière irrationnelle. Ne cherche pas l'excuse de la folie à cette femme. C'est lui faire une grâce qu'elle ne mérite pas. Je sais, nous sommes tous enclins à ça, et c'est peut-être une qualité jusqu'à un certain point. Mais il faut raison garder. Tous les gens, fous ou non, qui désirent croire à quelque chose, ont tendance à refuser de voir la réalité, même si elle se dresse devant leur nez. Ils choisissent le déni, tout simplement. Je crois que Cyrilla a voulu s'aveugler.
Disons qu'elle a préféré gober un mensonge parce qu'elle avait envie d'y croire, dit Richard, paraphrasant une partie de la première leçon du sorcier.
C'est exactement ça,
s'écria Zed. Il fit un grand geste circulaire et claqua des doigts, parodiant le comportement d'un génie qui accorde un souhait à quelqu'un.
Elle a décidé que les choses étaient faites d'une certaine façon, puis supposé que la réalité se plierait à ses désirs. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi.
La reine Cyrilla, intervint Kara, en a voulu à Djebra parce qu'elle disait la vérité. Puis elle est allée jusqu'à la punir de ce crime.
Zed caressa tendrement l'épaule de Djebra, qui enferma les yeux de bonheur.
Les personnes qui refusent de voir la réalité en face, quelle que soit leur motivation, détestent qu'on les arrache à leurs rêves éveillés. Elles peuvent se montrer très violentes dès qu'il s'agit de défendre leurs fantaisies. Souvent, elles réservent leur venin aux prophètes de mauvais augure qui refusent simplement de mentir.
Mais la réalité ne disparaît pas pour autant, dit Richard. Zed acquiesça à cette remarque pleine de bon sens.
Ceux qui cherchent la vérité ont pour démarche fondamentale de ne jamais perdre la réalité de vue. Après tout, c'est elle, pas l'imagination, qui est la source de la rationalité.
Richard posa la main sur le manche du couteau qu'il portait à la ceinture. Son épée lui manquait, mais il l'avait échangée contre des informations précieuses au sujet de Callan et du sort d'oubli. Le marché était équitable. Pourtant, il aurait aimé détenir l'arme et s'inquiétait souvent de ce que pouvait bien en faire Samuel. Un peu perdu dans ses pensées, le regard dans le vide, il murmura « J'ai du mal à comprendre que les gens puissent refuser de voir ce qui est dans leur propre intérêt. »
« Pourtant, c'est le drame de l'humanité, » dit Zed,
abandonnant le ton de la simple conversation au profit d'une voix plus grave et vibrante d'autorité.
« Tout tient à ça, mais peu de gens s'en rendent compte. »
Le vieux sorcier plongea son regard dans celui de Richard.
« Se détourner délibérément de la vérité revient à se trahir soi-même. »
Shota fronça les sourcils et lâcha.
« Une nouvelle leçon du sorcier, Zorender. La dixième, pour être exact. »
La voyante dévisagea intensément le sourcier.
« Une leçon à retenir. »
dit-elle d'un ton coupant. Richard comprit qu'elle le soupçonnait d'ignorer la réalité, à savoir l'invasion du Nouveau Monde par l'ordre impérial. C'était faux, bien entendu. En revanche, il n'imaginait pas ce qu'il aurait pu faire de plus pour arrêter le conflit. Si les souhaits avaient suffi, les hordes de Jagang seraient depuis longtemps retournées chez elles. Hélas, il ne suffisait pas toujours de vouloir pour pouvoir. Bref, s'il avait su que faire, il l'aurait déjà fait. Penser qu'un avenir sombre guettait son monde n'avait rien de plaisant, surtout lorsqu'on ne savait pas comment empêcher la catastrophe. Mais se dire que quelqu'un comme Shota croyait qu'il se tournait les pouces au lieu d'agir, bon sang, il y avait de quoi s'étouffer de rage.
Richard se tourna vers Nietzsche. Même dans la ridicule chemise de nuit rose, cette femme restait un parangon de noblesse et de sagesse. Alors que Richard avait été élevé dans le respect de la rationalité, l'ancienne maîtresse de la mort sortait de toute une vie d'endoctrinement. Dès l'enfance, elle avait été exposée à la propagande de l'ordre. Après une telle épreuve, il fallait être une personne hors du commun pour se lancer en quête de la vérité. Alors que son regard sondait celui de la magicienne, Richard se demanda s'il aurait eu le courage, à sa place, de remettre en cause les certitudes d'une vie entière, et l'honnêteté de reconnaître ses erreurs avant de faire ce qu'il fallait pour les corriger. Très peu de gens avaient ce type de courage. Nietzsche pensait-elle aussi qu'il détournait le regard de la réalité pour s'occuper de ses petits problèmes personnels? Croyait-elle qu'il refusait de faire ce qui s'imposait pour sauver des milliers d'innocents? Il espérait que non. Bien souvent ces derniers temps, savoir que Nietzsche le soutenait lui avait donné le courage de continuer alors qu'il aspirait à poser son fardeau et à s'étendre sur le bas-côté de la route. Nietzsche attendait-il de lui qu'il renonce à chercher Callan pour se concentrer sur la protection des peuples du Nouveau Monde? Arithmétiquement, c'était incontestablement la chose à faire, car une vie ne pesait rien face à des centaines de milliers d'autres. Mais il y avait plus troublant que cela. Callan elle-même aurait exigé qu'il se consacre au plus grand nombre. Si fort qu'elle ait pu l'aimer à l'époque où elle savait qui elle était, elle n'aurait jamais accepté qu'il néglige sa mission pour s'occuper d'elle. Soudain, une partie de la pensée qu'il venait d'avoir fit l'effet d'une gifle au sourcier. À l'époque où elle savait qui elle était. Si Callan avait perdu la mémoire, elle ne se souvenait plus de l'existence de son mari? Et bien entendu, elle ne pouvait plus l'aimer? Richard sentit ses genoux se dérober. Cette idée le privait de toutes ses forces.
J'étais fier d'avoir tout tenté pour lui ouvrir les yeux,
reprit Jebra lorsque Zed mit un terme à son imposition des mains apaisantes.
En revanche, je détestais être prisonnière dans un donjon. Pour sûr, ça me rendait malade.
Qu'est-il arrivé?
Demanda le vieux sorcier.
Combien de temps es-tu resté dans ton cachot?
J'ai vite perdu le compte du temps. En l'absence de fenêtre, je n'ai même plus su si on était le jour ou la nuit. Alors, le passage des semaines et des mois. Mais j'ai été prisonnière assez longtemps pour que les bouchers de l'ordre soient revenus, puis repartis. Au fil du temps, j'ai perdu tout espoir de revivre un jour. La mort aurait été une délivrance, mais on ne passe pas à volonté de vie à trépas. Comme on me nourrissait, jamais assez pour que je sois rassasié, mais suffisamment pour me maintenir en vie, pourquoi aurais-je péri? De temps en temps, les geôliers laissaient brûler une bougie devant la porte de mon cachot. Ces hommes n'étaient pas cruels avec moi, enfin, pas plus que le nécessaire, mais il était terrifiant de rester sans cesse enfermé dans une minuscule pièce plongée dans l'obscurité. J'ai vite compris qu'il ne fallait surtout pas se plaindre. Quand les autres prisonniers gémissaient, débitaient des injures ou criaient comme des fous, les geôliers leur ordonnaient de ne pas faire de bruit. Lorsqu'un de ces malheureux n'obéissait pas, les menaces que proféraient les gardiens me donnaient des frissons dans le dos, et je savais qu'ils n'hésitaient pas à les mettre en application si ça s'imposait. Mes compagnons d'infortune ne restaient jamais bien longtemps parce qu'on les faisait transiter par le donjon en attente de leur exécution. Il y avait beaucoup d'arrivées et de départs dans ce donjon. D'après ce que j'ai pu voir par le judas de ma porte quand un geôlier le refermait mal, les prisonniers étaient des types dangereux et violents, qui ne respectaient rien. Les obscénités qu'ils débitaient presque chaque nuit me réveillaient en sursaut et hantaient mes rêves, ou plutôt mes cauchemars, dès que je me rendormais. Durant toute ma captivité, j'ai redouté qu'une vision me révèle quand et comment surviendrait ma fin. Mais ça n'est jamais arrivé.
De toute façon, avais-je besoin de mes pouvoirs pour savoir ce qui m'attendait? Les envahisseurs approchaient, et Cyrilla, je le savais, finirait par me tenir pour responsable de tout. Je suis Pity depuis ma plus tendre enfance, et je sais comment se passent les choses. Les gens qui n'aiment pas ce que je leur annonce ont tendance à m'accuser de leur malheur. Au lieu d'utiliser les informations que je leur fournis pour améliorer leur sort, ils ne font rien contre le destin et se défoulent sur moi. À croire que j'oriente mes visions dans la seule intention de les embêter. Ma captivité me devint vite insupportable. Pourtant, je fus bien obligé de la supporter. Assise dans le noir, je finis par comprendre pourquoi mon séjour dans une oubliette avait fait perdre la raison à Cyrilla. Moi, au moins, je n'étais pas enfermé avec des violeurs et des assassins. Mais j'étais sûr de mourir dans ce trou oublié de tous, et peu à peu je perdis toute notion du temps. Aucune vision ne vint me troubler. À l'époque, je n'avais pas compris que je n'en aurais plus jamais. Un jour, la reine m'envoya un émissaire. L'homme me demanda si j'étais prête à réviser ma vision. Je lui répondis que j'étais disposé à débiter tous les mensonges du monde si Cyrilla me laissait partir de mon trou. La reine ne devait pas attendre une déclaration de ce genre, car je ne revis jamais son agent et personne ne vint me libérer non plus.
Richard jeta un coup d'œil à Shota et vit qu'elle continuait à jouer au jeu des parallèles. De toute évidence, elle l'accusait de ne pas croire à ses prédictions et de lui demander d'en changer pour lui faciliter la vie. Avait-elle totalement tort? Un instant, Richard se sentit très mal dans sa peau.
Un autre jour, reprit Djebra. Un garde vint me parler à travers le guichet de mon cachot. En réalité, comme je l'ai appris plus tard, ce n'était pas un jour mais une nuit, un détail sans grande importance, je l'avoue. L'homme murmura que les troupes de l'ordre approchaient de la ville. La bataille était imminente. Ce gardien semblait content que la longue attente de l'action soit enfin terminée. Face à la sinistre réalité, plus personne ne serait contraint de jouer la comédie pour plaire à la reine. Au fond de leur cœur, tous les sujets de Cyrilla savaient qu'une catastrophe se profilait. Maintenant qu'on y était, ils pouvaient affronter la réalité en face, sans avoir le sentiment de trahir la couronne. Malheureusement pour ces braves gens, la folie de Cyrilla ne se limitait pas à nier la gravité de la menace. Je dis au geôlier que j'avais peur pour les habitants d'Ebinicia. Il s'esclaffa, me traita d'idiote et me plaignit parce que je sous-estimais les compétences des soldats de Galéa. L'armée du royaume, forte de plus de 100 000 hommes, allait botter les fesses des envahisseurs pour les renvoyer chez eux, comme la reine le lui avait demandé. Je me tus, n'osant pas m'inscrire en faux contre les illusions d'invincibilité de Cyrilla. Grâce à mes visions, je savais que 100 000 hommes ne pèseraient pas lourd face aux hordes de Jagang. Le désastre était inévitable et je ne pouvais même pas choisir la fuite. Soudain, j'entendis le bruit sinistre qui avait annoncé ma vision. L'identifiant enfin, j'en eus aussitôt la chair de poule. Il s'agissait du son de milliers de cornes de guerre. On eût dit le cri de rage d'un démon venu du royaume des morts pour dévorer les créatures vivantes. Les murs de ma prison eux-mêmes n'étaient pas assez épais pour étouffer ce vacarme. La mort approchait, précédé par un hurlement qui aurait glacé les sangs du gardien en personne.